Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ce que je vous expliquais, c'est que on essaye ici de pas vous inonder de trop de nouvelles dans l'IA, mais là, faut que ça sorte. Il faut savoir que tout le monde a décidé de sortir en même temps les plus grosses nouveautés en novembre 2023. Y compris OpenAI, qui, lors d'une grande... qu'on attendait depuis quelques mois, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui, lors d'une grosse conférence, a balancé dinguerie sur dinguerie. Et je ne dis pas ça pour faire comme les threads Twitter, là, un peu énervant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est... À chaque nouveauté... C'était un truc que j'attendais, en fait. Et c'est ça où je trouve qu'ils sont très, très forts quand même pour arriver à se synchroniser sur l'attente des gens, ce qui est un truc qui est facile à planter. Là, tout ce que je vais vous présenter, je vais le faire par ordre du plus évident, voilà, de dont tout le monde parle, jusqu'au truc dont on parle moins, mais qui sont pour moi même encore plus intéressants. Et vraiment, chaque truc est impressionnant ou va vraiment changer quelque chose, y compris nous, pour la boîte. Enfin, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous être directement utiles, et à vous aussi peut-être. Ce qui était assez marrant, c'était de voir juste après la flopée de tweets de gens qui expliquaient que leur start-up venait de disparaître.
Ah oui.
Tout simplement. Quand quelqu'un me demande combien de start-up n'ont pas disparu.
En plus, il a la tête parfaite.
Non mais, faut l'avouer, il y a énormément de start-up et de soi-disant applis qui sont en réalité des rip-off des API d'OpenAI avec juste un prompt ou deux qui changent, clairement.
Mais du coup, normalement, tu t'y attends un peu.
Et on s'attend à ce qu'elles aient des durées de vie relativement faibles. C'est un peu comme Apple, en fait, quand ils implémentent une super appli qui était sur l'App Store, mais en natif, avec leur propre version hyper intégrée. Ben voilà, c'est une boîte qui coule.
Mais souvent, Apple, ça met 2-3 ans.
Ouais.
Là, c'est vrai qu'ils ont été rapides.
Là, voilà, la durée de vie des startups, c'est zéro, parce que comme vous allez le voir, il y a des fonctionnalités qui vont permettre de faire en sorte que on n'ait plus besoin de passer par des services extérieurs qui viennent combiner ChatGPT avec de la vision, avec de l'intelligence, avec des prompts, etc. Là, ils ont imaginé un système de marketplace directement intégré, en fait, où on peut créer des chatbots custom. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est du fine-tuning? Spoiler, non. Est-ce que c'est quand même quelque chose de très puissant, malgré que ça n'est pas du fine-tuning? Oui, je vais vous expliquer ça en détail. Concrètement, quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut customiser le comportement d'un chatbot, on a accès à quoi? Tiffany, tu me dis si je dis de la merde. De ce que j'ai bien compris, on peut modifier le prompt dit système, ce sont les premières instructions qui guident le plus le comportement d'un chatbot, la manière dont il va parler, et même dans son arbre statistique, où est-ce qu'il va se déplacer pour fournir des réponses d'experts dans tel ou tel domaine. On peut modifier des documents. Donc, par exemple, si le chatbot a accès à des fonctions, comme c'est le cas maintenant souvent, c'est-à-dire que c'est plus seulement de la génération de texte, mais ça devient des assistants qui peuvent appeler des fonctions qui évoluent dans un univers sandboxé sur les serveurs d'OpenAI, eh bien, on peut modifier quels sont les outils auxquels cet assistant a accès. Par exemple, là, tu peux créer un super assistant de la finance à qui tu fournis, par exemple, des CSV qui contiennent toutes les performances récentes de Tesla, Apple et compagnie. Et cet assistant va pouvoir requêter, pendant que tu lui parles, sans même que toi, tu t'en rendes compte en réalité, il va pouvoir requêter ces documents. Et de réfléchir si je vois d'autres exemples, mais tu pourrais imaginer un chatbot qui est spécialiste de Midjourney et qui a dans sa base de données énormément d'exemples de super prompts qui marchent vachement bien. Et il a la documentation aussi complète du service dans son local storage, en fait. Et à chaque fois que tu vas lui parler, toi, tu n'es même pas au courant, mais derrière, en tâche de fond, il va aller faire des recherches, récupérer des informations dans certains documents, etc. C'est le tout début de cet App Store, donc on ne sait pas exactement ce qu'il va permettre concrètement, mais ça va être assez marrant parce qu'ils ont... On va dire que la friction pour customiser le comportement du bot, est mille fois plus et mille fois moindre que faire du fine tuning, évidemment, qui demanderait énormément de ressources et de temps et de calcul à tout le monde. Là, chacun va pouvoir bidouiller avec, et on sait que cet effet statistique là est très intéressant. C'est-à-dire que on n'aurait jamais découvert autant de trucs sur les modèles de diffusion si il n'y avait pas des millions de gens qui avaient pu prendre un bâton et taper dedans dans tous les sens et voir ce qui sort. Et ben il va probablement se passer la même chose avec cet App Store là. Donc moi j'ai trop hâte de voir c'est quoi les meilleures applications qui sortent.
Yeah, ouais.
On a quelques premiers exemples déjà. Donc c'est un mentor en mathématiques, quelqu'un qui a accès à plein de ressources sur comment écrire. Donc potentiellement que la personne qui a créé ce bot là a mis des bouquins de conseils sur l'écriture dans sa mémoire vive entre guillemets. Sur l'estrade, ils ont aussi fait une démonstration où le CEO Sam Altman expliquait qu'on lui posait tout le temps des questions sur comment créer une startup qui fonctionne. C'est quoi en fait ces conseils qu'il donnerait.
Ouais.
Il a créé son double virtuel en fait, qui est un chatbot qui a dans sa mémoire le bouquin qui pour lui est le plus important et qui synthétise tout ça. Il lui a donné quelques instructions pour qu'il se comporte de la bonne manière, qu'il soit proactif, qu'il réponde aux questions, etc. Et comme ça, il redirige maintenant les gens vers ce bot-là pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat. Visiblement, les résultats, ils sont assez convaincants, quoi.
Ouais.
C'est un exemple parmi d'autres. Je sais pas si vous en avez, t'en as vu des intéressants, non?
J'en ai vu des intéressants, mais parce que je travaille dans le,
oui. dans le domaine.
Et il y a certaines choses que je pourrais pas dire jusqu'à la fin. Moi. Du coup, je vais me retenir. Mais il y a un parallèle que j'aime beaucoup utiliser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est sur ces IA qui sont augmentées, donc elles sont pas fine-tunées, elles sont juste augmentées. C'est l'image du stagiaire. En fait, moi j'ai l'impression que c'est que les IA qui sont pas du tout augmentées, on va dire un ChatGPT normal comme il était avant à la base, c'est comme un stagiaire qui sort de l'école, il est ultra bien formé, il est ultra compétent, mais il a jamais bossé et il connaît rien au business par exemple de ta boîte. Et quand il rentre le premier jour, eh ben, il y a une différence entre demander à un stagiaire de faire quelque chose alors qu'il a aucun contexte et le premier jour lui donner un manuel ou un gros descriptif de tout ce que fait la boîte et c'est quoi le business case et enfin, genre, comment ça marche et tout. Et ensuite lui demander de faire une tâche, tu vois. Et en fait, c'est juste ça, tu donnes à ton stagiaire, donc à ton IA, toutes les connaissances dont elle a besoin et où est-ce qu'elle peut piocher. Et en fait, ça limite ce qu'on appelle les hallucinations, dont tu avais déjà parlé à l'époque,
ouais.
Qui est qu'en fait, les IA, quand elles veulent répondre à une question, parfois elles sont complètement convaincues qu'elles disent la vérité, alors qu'en fait, elles essaient juste de trouver la réponse la plus statistiquement probable, alors qu'en fait, quand tu leur donnes cette source d'information, elles sont obligées de chercher dans la source d'information la vérité. Et du coup, ça limite ces phénomènes d'hallucination-là qui posent problème, en fait, parce que du coup, les gens ont tendance à croire ce que disent les IA, alors que là, du coup, il y a quand même une source qui est vérifiée et tu peux faire en sorte que ton IA, si elle n'a pas trouvé dans la source, elle l'admette.
Ok.
Tu vois Donc, en fait, ça limite vraiment les hallucinations dans le sens où même si elle n'a pas la réponse, elle va te dire même dans ma stack de connaissances, en fait, je n'ai pas trouvé la réponse et je te le dis, tu vois. Et là, elle est sûre. Et c'est assez cool.
Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que c'est pour de la donnée.
Ouais.
Mais il y a aussi, dans cette marketplace-là, l'accès à des outils. Du coup, les outils, ce serait quoi? C'est de la génération d'images, par exemple, ou de la compréhension, ou de la vision, ou de l'exécution de code dans des sandbox Python. On sait que OpenAI a développé ce système-là. Ce qui fait que tu peux avoir ton assistant qui est spécialisé à requêter sur une base de données SQL, par exemple. Donc, tu pourrais t'imaginer que dans ta boîte, t'as ta base de données de ton entreprise, et bah, tous les jours, tu la synchronises avec ton bot OpenAI. Donc, tu déportes ta base de données SQLite, par exemple, ou peu importe, et ton bot peut tout seul, sans que toute ton équipe soit au courant de la manière dont ça marche, et bah, aller requêter cette base de données, tu vois, et te pondre des graphiques, par exemple. Ça permet de faire en sorte que, je sais pas moi, quelqu'un qui est aux ressources humaines, qui a aucune notion technique, peut dire « Ok, j'aimerais bien savoir c'est quoi le churn là sur les trois derniers mois de nos employés. » Et ça, c'est vraiment un usage très, très doux. Enfin, on est dans l'inconnu total des dingueries qui vont être faites avec ça, quoi. Donc, trop hâte de voir ce que ça va donner. La deuxième grosse nouveauté, évidemment, c'est des questions de performance. Donc, la sortie de GPT-4 Turbo, notamment. J'ai fait un petit... on a un petit aperçu donc, dans le playground de ce que ça donne. Si vous avez déjà utilisé GPT-4 Turbo, vous savez que d'habitude, ça va... Enfin, GPT-4, vous savez que ça va jamais aussi vite que ça. Mais je voulais des données un peu plus précises et j'ai trouvé un tracker qui mesure à chaque instant les temps de réponse des différents chatbots. Que ce soit ceux hébergés chez Microsoft Azure, que ce soit ceux d'Anthropic, que ce soit ceux de Google, etc. Et c'est assez stylé parce qu'on va vous le montrer. Il y a un graphe qui te montre, au cours du temps, lesquels répondent plus ou moins vite. Ça peut t'aider à prendre des décisions si ta boîte a besoin de telle ou telle API. Tu peux décider laquelle est la plus fiable, en fait, et répond le plus vite. Et là, si tu survoles tout à droite, on peut voir que, notamment, la différence entre le nouveau GPT-4 Turbo et l'ancien est astronomique. Ça passe de 16 secondes à 3 secondes de réponse moyenne sur un texte donné.
Joli.
Ouais, clairement, ça change beaucoup de choses. Ça peut paraître anodin parce qu'on peut se dire, ok, mais à quoi bon, en fait, là, on est en train de... Moi, je suis en train d'utiliser mon chat. Il déroule plus vite que j'arrive à lire dans tous les cas, donc je m'en fiche. Sauf que ce serait sous-estimer tous les cas d'usage qui sont techniques pour des développeurs.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de cas où ce qu'on a envie de faire, c'est que, par exemple, quand un utilisateur clique sur un bouton, il y a toute un chain of thought, comme on dit, donc une série d'interactions qui se passent en arrière-plan sans qu'on en ait même connaissance et qui vont donner un résultat complètement dingue sans que l'utilisateur ait à voir toute la conversation. Et ce genre de cas d'usage peut nécessiter de faire des générations et des générations en arrière-plan, en fait.
Faut que ça aille à la vitesse de la pensée, en fait.
Exactement, faut que ça aille le plus vite possible. Ouais. Donc franchement, 16 secondes vers 3 secondes, ça fait très très plaisir. Mmh. Surtout que ça se combine avec une augmentation du contexte. Donc vous le savez probablement que les chatbots ont une mémoire limitée, en gros. C'est-à-dire que la conversation qu'il y a au-dessus, il finit par l'oublier à un moment si elle dure trop longtemps. Et c'était 8000 tokens sur GPT-4 et ça passe à 128 000. Ce qui est...
Les ordres de grandeur,
c'est... Ce qui est dingue.
Ouais.
C'est complètement dingue. Ça pose quelques petites questions. Moi, je m'emballe pas trop parce que sur les gros contextes, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais il y a des problématiques de... Alors, ils appellent ça le problème du trou. Alors, je sais plus comment on dirait ça en français. Mais c'est que concrètement, si tu donnes un bouquin entier, par exemple, à GPT-4 et que tu lui poses des questions... dont la réponse peut se trouver au début, au milieu ou à la fin, il va avoir tendance à trouver beaucoup plus de choses au début et à la fin de sa fenêtre de contexte.
Ok.
Et donc, et en fait, c'est un problème parce qu'on pourrait croire que sa mémoire, elle est comme la nôtre, en fait, elle est linéaire ou inversement, ou alors qu'il oublie le début, comme nous, on oublierait nos souvenirs anciens. Mais en fait, non, il y a un phénomène où ce qui est au milieu, il l'utilise beaucoup moins dans sa réflexion, quoi. Donc, on attend de voir que ce soit sérieusement benchmarké par des sources externes. Mais si ça marche bien, avoir beaucoup de contexte, bah comme tu le disais, Tiffany, ça permet énormément de choses, en fait. Parce que si le stagiaire, on peut lui donner une toute petite documentation de 2 pages ou alors un bouquin entier, et bah, ses capacités sont d'autant plus décuplées, quoi.
Donc, mais ça, c'est dans le contexte.
Oui.
En plus, ouais.
Oui, c'est dans le contexte, pas dans une base de données.
Pas dans une base de données extérieure qui pourrait
vectoriser tout ça.
Mais le contexte est ultra puissant aussi.
C'est pas le sujet, mais je trouverais ça super intéressant de comparer comment fonctionne la mémoire, entre guillemets, d'un LLM, d'un chatbot, versus notre mémoire.
C'est notre...
Parce que tu vois, t'as dit potentiellement elle est linéaire et tout, machin, je suis pas sûr, enfin je sais
non,
pas.
Non, elle est probablement pas linéaire.
Mais du coup, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui ont théorisé sans doute comment fonctionne notre mémoire, par exemple sur un livre ou sur un texte.
Ouais, ouais, non, c'est vrai.
C'est vrai. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le placement ou c'est juste de l'émotionnel? Bref, c'est pas le sujet.
Ce qui est sûr, c'est que ça doit être très très imagé.
Ouais.
Et du coup, si ça se trouve, ça doit être très très dur de comparer notre truc.
Oui, sans doute.
Je pense que c'est très différent en fonction des gens aussi. Alors que du coup, pour les modèles, c'est.
Ouais.
Toujours
ouais. C'est toujours le problème des humains, ça.
Mais
ils sont différents, c'est chiant.
Et la troisième nouveauté, c'est une baisse drastique du prix, ce qui fait très plaisir. On passe sur GPT-4 à de 3. On passe à 3 centimes. Bon, en gros, c'est divisé par... Je vais résumer.
Stadium explodes in joy.
On a un petit retour audio, merci. Pour GPT-4, les inputs, le prix des inputs est divisé par 3 et des outputs est divisé par 2. Bon, dites-vous que c'est beaucoup réduit, voilà.
Mais c'est par token, enfin c'est pas...
Par token, oui.
OK. Mais donc, comme tu peux en mettre plus, du coup...
Bah exactement, tu peux te retrouver en fait à avoir tes coûts qui augmentent. Mais pour la même, pour ce que tu avais avant, ça te coûtera deux fois ou trois fois moins cher. Okay. mais oui, tu peux avoir un effet, comment on appelle ça, un effet rebond en fait, où tu te mets beaucoup plus utilisé de.
Bah, je pense qu'il serait content d'avoir un effet rebond.
Je pense qu'il mise là-dessus aussi, à mon avis. La nouveauté suivante est là qui a donné à beaucoup de démonstrations très très sympas et très visuelles sur Twitter. Ce sont les API de GPT Vision et de DALL-E 3 qui sont enfin sortis. Ça faisait un moment qu'on pouvait faire joujou avec dans l'interface native de, du chatbot. Donc c'est GPT Vision, c'est le fait de pouvoir uploader une image et de d'avoir une discussion dessus. Exemple, vous prenez une photo d'une caisse à outils ou d'un schéma et vous demandez à ChatGPT quel outil je devrais utiliser ou comment je pourrais résoudre ce schéma technique. Et va tout, aller pointer à tel ou tel endroit de l'image ce qui doit être fait. C'est très impressionnant et vous allez voir qu'une fois que c'est combiné avec le côté automatisation, parce que à partir du moment où qui dit API dit automatisation, dit qu'on peut aller le plugger à plein d'autres choses, ça devient vraiment puissant. La première démo que j'ai vue, que j'ai trouvé géniale, c'est du commentaire.
Look at him go. The crowd is roaring. Can you believe this? He's taken on the whole defense. He's a one-man show, ladies and gentlemen. He shoots. Goal! Messi, Messi, Messi! Unbelievable. What a goal. What a goal.
Il sait que c'est
glorious.
Messi.
Absolutely glorious. The stadium explodes in joy. Ouais. This is football magic at its finest. Only Messi. Only Messi. Goal, goal, goal.
Ah, mais le plan d'avant, il était de loin. Dodging
one. Franchement, c'est vraiment très, très impressionnant. Et concrètement, comment ils ont fait ça? Ils ont pris la vidéo, ils ont pris une frame toutes les quarts de seconde, je crois, ou quelque chose comme ça, et il les a donné à l'API de GPT Vision en lui demandant de décrire probablement quelles étaient les actions dans le jeu. À partir du moment où tu as cette brique là où tu peux avoir un flux vidéo continu et en tirer une suite d'actions de qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qui rentre dans la scène, qu'est-ce qui sort, etc. C'est fou. C'est juste tout ce que tu peux en faire est fou. Là, dans ce cas-là, ils ont imaginé un commentaire en direct d'une régie de foot. Mais on peut imaginer plein d'autres concepts. Il y a une autre démo qui est sortie qui était l'équivalent, mais avec une webcam. Concrètement, il a fait en sorte que toutes les secondes ou toutes les deux secondes, il y a une photo de sa webcam qui est prise et c'est envoyé à GPT Vision qui va décrire ce qui se passe. Donc là, il le voit, il prend un objet et il le met devant sa webcam pour voir ce qui se passe. Et t'as GPT Vision qui obtempère et qui explique qu'il vient de prendre sa boîte de Raspberry Pi.
C'est assez fou, ouais.
C'est assez dingue parce qu'en gros, la brique, on vient de trouver une brique supplémentaire dans notre set de Lego, en fait. Et on ne sait pas encore ce qui va être possible avec. C'est ça qui, moi, me fascine le plus.
J'ai l'impression que c'est un bon résumé de cette conférence. Alors moi, je ne l'ai pas trop suivi, mais de ce que tu racontes, c'est que globalement, ils ont rajouté des briques.
C'est ça.
Ils ont pris leur boîte de Lego et fait « Ben voilà, maintenant, on a des nouvelles briques à vous présenter. Vous les avez à disposition.
Amusez-vous.
Démerdez-vous. Amusez-vous, démerdez-vous. » J'ai l'impression que c'est un peu le résumé.
Mais en fait, c'est super simple parce que c'était ce qui manquait un peu. En fait, on voyait le potentiel de ChatGPT et tout ça, et on a vu toutes ces entreprises se monter très rapidement pour faire ce genre de choses-là. En fait, ils se sont dit, mais non, il faut rendre les choses plus facilement utilisables par les gens, donc on crée ces briques-là. Mais du coup, à partir de là, je pense qu'il va y avoir des choses complètement hallucinantes.
Mais c'est sûr, parce que déjà, là, on sentait que ce qui capait un petit peu les possibilités des GPT-4 et compagnie, c'est la compréhension du monde, c'est un peu de... Enfin voilà, c'est des hallucinations, il y a des choses comme ça, mais quand même, ils se débrouillent vraiment pas mal.
Ouais.
Mais on sentait qu'il y a un plafond de verre, ça restait la compréhension de l'image, en fait. Et imagine maintenant ce genre de modèle intégré dans un casque de réalité virtuelle où tu as ton assistant qui a constamment le contexte de ce que tu dis, mais aussi ce que tu vois.
Mais en fait, là, tu vois, ce que tu dis, c'est comme si aux IA, on avait rajouté des yeux.
Ouais.
En fait, ce dont tu parlais avant, c'était leur donner la capacité de pouvoir faire des actions. Genre comme par exemple prendre des décisions, par exemple sur des transactions financières ou des trucs comme ça. Et là, on leur donne des bras.
Ouais, c'est ça.
Et là, je pense qu'on commence à glisser doucement vers quelque chose de, où tu fais OK.
C'est stressant. Ouais. Non, mais c'est clair. Il y a évidemment, là, je partage tout mon enthousiasme. Mais bon, il y a une partie de moi qui a un peu peur de ce qu'on va voir dans 6 mois quand même. D'autres démos qui utilisent ça, qui sont potentiellement beaucoup plus pratiques ou c'est sûr qu'elles vont être utilisées rapidement en fait par des boîtes parce que c'est juste trop pratique, c'est de l'auto-mockup. J'ai appelé ça comme ça. Concrètement, vous faites un petit dessin d'une application ou d'un composant comme ferait un designer web finalement. Donc là, ça, il fait un tweet en 2 secondes avec like, comment, partage et un truc voilà, très très basique. Et il envoie à son API qui lui génère ça. Je ne sais pas si vous réalisez quand même parce que le composant est propre, hein. Il n'est pas parfait, je pense qu'il pourrait encore l'améliorer. Mais en gros, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que l'image, son dessin fait en 2 secondes est envoyé à GPT Vision. Et à partir de ça, on lui demande directement, sans intermédiaire, de générer du code HTML en utilisant probablement une librairie de stylisation comme Tailwind pour faire le composant équivalent. Et c'est pas moche, c'est pas genre... Parce que ce genre de démo, ça existe depuis quelques années quand même.
Ouais. Ouais.
C'était pas foufou, hein. Là, ouais, ça commence à être vraiment utilisable.
En fait, ce qui est très intéressant avec cette démo-là, c'est qu'elle, comme tu dis, elle existe déjà depuis longtemps. Enfin, ça fait un moment qu'on essaie de générer des sites directement à partir de mockup. Ouais. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est de voir comment les technos derrière ont changé. Et je me rappelle que c'était il y a un an, quand je suis venue pour la première...
Il y a un outil de Microsoft, on avait parlé, ouais.
C'était pratiquement il y a un an, mais...
Non, il y a 2 ans même.
C'était il y a 2 ans ?
Oui,
probablement.
Oh, le temps passe <C'est... rire> mais je me rappelle qu'on avait parlé déjà à cette époque-là d'une techno qui était similaire, mais qui ne marchait pas du tout avec les mêmes algos. Et c'est fou comme ça va vite. Moi, je suis hallucinée.
Comme d'habitude. Ouais. On ne le dit plus, mais c'est vrai que... C'est
j'ai l'impression que des fois, c'est quand on travaille dans le domaine, on est encore plus à hyper que les gens qui travaillent pas dedans.
Oui, c'est parce que c'est plus dur de mesurer la vitesse de progression quand de ton point de vue, c'est un peu de la magie en fait.
mais parce que ce que tu viens de montrer là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ah mais j'avais déjà vu ça il y a longtemps.
Oui.
En fait, non, c'est pas du tout la même techno qui est derrière.
Pas la même technologie.
C'est super intéressant d'ailleurs de regarder.
C'est pas autant utilisable du tout. Là vraiment le code qui est pendu, j'ai regardé un peu, c'est effectivement du Tailwind déjà. Ça utilise des règles de l'art, c'est responsive. En fait, tu peux vraiment l'utiliser dans ton projet quoi.
Ouais.
Dernière démonstration sur GPT Vision. On peut appeler ça. C'est quoi ça?
Oh le jeu d'acteur, voilà, je le veux tous les jours.
L'intonation et tout.
Imagine sur ton ordinateur, t'appuies sur un raccourci clavier, tu sélectionnes une zone n'importe où de ton image et tu demandes ce que c'est. Donc concrètement, tu sélectionnes la zone et tu demandes ce que c'est. Donc ça s'applique à, je sais pas moi, si tu
énorme.
Tu es en train d'étudier des schémas scientifiques. Voilà, donc là il va donner quel est l'os exact que tu as sélectionné, mais bien sûr. Ou alors si il va montrer aussi une équation mathématique où tu peux sélectionner un des paramètres et lui demander précisément qu'est-ce que c'est que cette constante là.
Ah c'est génial.
Mais alors ça.
Ouais, c'est génial.
C'est trop bien. C'est trop bien.
Ok là j'achète.
Non, mais... C'est que sur les images du coup.
Le pire c'est actuellement c'est vraiment des screenshots et point barre. Alors non ça peut marcher avec du texte hein, puisque GPT Vision comprend tout ce qui est texte. Mais moi, ce qui me fume, c'est que ça, c'est un script de 20 lignes. Hein. C'est-à-dire qu'il a juste connecté l'API avec la capture d'écran. Il y a aucun travail de sa part. Il n'y a pas d'intelligence. Tu vois, c'est le niveau zéro, quoi. Donc.
C'est l'idée.
Exactement. Qu'est-ce que ça va être quand ce sera des produits, entre guillemets, plus peaufiné,
ça,
quoi.
Ça, c'est pas fait directement par OpenAI. C'est le mec qu'on a vu à l'écran, là.
Ouais, c'est ça. Il a connecté, je sais pas, tu prends un Recast ou un truc comme ça. Bam, tu fais une sélection d'écran. Quand tu obtiens une image, envoie une requête à OpenAI avec tel prompt. Dis-moi ce qu'il y a en une ligne. Bam, affiché à l'écran, t'as mis.
Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'ils nous ont donné des nouvelles pièces de Lego. Ils nous ont donné les moyens de les assembler. Quoi.
Exactement.
En gros, c'est la conférence, c'est... ils auraient pu en faire ça en 30 secondes.
Si. Je réagis sur un message du chat qui dit que les IA pourront réaliser les CAPTCHA pour nous. La boucle est bouclée. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire que j'ai vu des...
La première faille.
Non mais là c'est...
Non mais les CAPTCHA, fallait en même temps qu'ils se renouvellent un peu là. Non mais honnêtement, des X et WZ, là j'en ai marre.
J'ai vu sur un projet, sur un concurrent de GPT Vision open source, que leur modèle de démonstration, donc en gros le dataset qui permet de faire un peu, je joue avec le modèle, c'est les CAPTCHA. Un gros, vraiment.
C'est quoi ce modèle? Je suis sûr que tout le monde te le demande.
Je pense
dans
c'est
le chat.
Takayama, à mon avis.
Ok.
Et je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre. Mais en gros, tu t'installes le modèle et le premier truc qu'on te propose de faire, c'est de craquer les captchas. Je trouve ça juste le pied de nez à mourir de rire. Mais oui, ça pose question. Hein. C'est pas sûr qu'ils réussissent à faire une version suivante de captcha, hein, franchement.
Ouais.
Ça va devenir très compliqué.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
J'enchaîne parce que je veux. C'est que le début. Okay. Ah non, il y a encore.
Peut-être arrêter de poser des questions. J'ai envie d'interagir.
Non, je vais aller un peu plus vite, mais honnêtement, il y a encore des trucs dont on a moins parlé qui sont pour moi vraiment intéressants. Le point suivant qui est un peu passé sous silence, c'est que on a maintenant un modèle directement dans l'interface de ChatGPT qui est all-in-one. Dans le sens où avant, il y avait la version normale, la version qui peut accéder à Internet, la version qui peut générer des images avec DALL-E 3. La version qui peut exécuter du code dans un environnement Python avec Data Science. Tout ça est maintenant réuni dans un seul modèle qui peut tout faire, en fait. Ce qui permet de débloquer des nouveaux usages qui n'existaient pas. Par exemple, quelqu'un a fait la démonstration, il a envoyé sa photo, et il lui a demandé de générer un avatar avec. Donc juste drag and drop dans ChatGPT. Est-ce que tu peux générer un avatar? Et bim. Alors qu'avant, il aurait fallu lui demander une description précise de la photo, ensuite de générer un prompt pour DALL-E, et ensuite de faire un avatar. Là, on va dire que, comme tu le dis justement, ils ont connecté tous les trucs, ce qui débloque des nouveaux usages qui n'étaient pas possibles avant. Attention, en vrai, c'est un peu de la triche, parce que ce n'est pas de l'image tout image, c'est de l'image tout texte tout image, en fait.
Ah.
Bah oui, parce qu'en fait, en arrière-plan, ce qu'on voit pas, c'est tous les prompts cachés que lui utilise. Et en fait, il décrit l'image à partir de laquelle il fait un avatar. Donc parfois, ça marche moins bien.
Ok. Ouais, c'est bien de le savoir en vrai.
Bah oui, c'est bien de le savoir. Ouais. Et il y a que ici qu'on vous le dit parce que sur le
monde,
tweet,
il va direct.
Exactement. Ouais. Le tweet, il est en mode, c'est génial, c'est une révolution, le monde va changer. Dans les faits, ça marche une fois sur trois.
Est-ce que t'as essayé de le faire, du coup?
Parce que j'ai essayé, évidemment. Mais c'est cool. Non, mais c'est
alors, tout le monde va vouloir voir ces avatars, mais...
Nouveauté d'après, c'est le text-to-speech. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Pour l'instant, il y avait en gros que Eleven Labs, qui est une entreprise spécialisée en text-to-speech, qui arrivait à un certain niveau de qualité, donc à produire des voix humanoïde qui soit pas trop malaise.
C'était pas mal quand même.
C'était impressionnant, vraiment c'était impressionnant.
On l'a déjà utilisé sur Underscore.
On l'a déjà utilisé
dans des vidéos.
pour faire des outros d'Underscore que je pouvais pas tourner. bon, ça se voit un tout petit peu, mais et ça coûte un petit peu cher à la requête.
Ah, okay.
Mais c'est quand même assez impressionnant. La version d'OpenAI, elle est seulement disponible sur 6 presets, mais qui marche très très bien. Et pour le coup, c'est deux fois moins cher.
C'est quoi 6 presets, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 voix différentes. D'ailleurs, j'ai fait une petite génération pour vous montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre. Tout simplement, j'ai pris un des presets et je lui ai fait dire une phrase. Si tu arrives à l'envoyer.
Salut Underscore. J'espère que le chat va bien et que Micode raconte pas trop de conneries pour une fois. Allez, ciao les Skip Kiddies.
mais du coup, on peut pas entraîner sa propre voix.
Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir une voix ultra crédible. Parce que là, les intonations, les points d'exclamation, les trois petits points modifient vraiment la manière dont la personne parle.
Okay.
Et franchement, très quali, moins cher, très réactif. Moi, je prends. Et les deux derniers, je vais rapidement sur la fin.
Non, tranquille, prends ton temps.
Et les deux dernières annonces vraiment cool, c'est des intégrations dans les interfaces. Alors, je vais expliciter ce que c'est exactement. Et une nouvelle version de Whisper, qui est un modèle open source très très cool. Je m'explique. Personne n'en a parlé de ça, mais pourtant, c'est assez original, j'ai trouvé, comme manière d'utiliser un modèle comme ChatGPT et leur système de fonctions. Concrètement, des développeurs vont pouvoir intégrer dans une web app un assistant qui n'est pas juste une petite boîte de discussion dans un coin, qui est le truc surutilisé qui fait un peu chier tout le monde en fait, mais faire en sorte que cette discussion là ait un réel impact sur l'appli. Ils ont fait la démonstration en live justement de ce que ça pourrait donner par exemple sur une appli de conseil de voyage. Donc concrètement, tu es là à discuter avec ton assistant qui te prépare ton voyage à Paris. Et tu vas lui demander, je ne sais pas si tu as la vidéo, Thiel. Trop bien. Et tu vas lui demander une série de conseils. En vrai, je pense que tu peux avancer un peu parce que ça met un peu de temps à arriver. Ah ben non, trop fort. tu vas lui demander peut-être 10 endroits que tu pourrais visiter sur la ville de Paris. Et plutôt que de simplement te donner les 10 endroits tout cuits, il va dynamiquement pouvoir modifier la page web sur laquelle tu es et la carte qui est à droite et te rajouter des petits points d'intérêt qui correspondent aux endroits. Je sais pas si vous si on regarde un petit peu dans l'interface. En fait, c'est donc il a c'est un peu plus petit. On mettra ça plus gros sur la VOD. Mais concrètement, l'interface ressemble à ça. Il y a une carte à droite, un assistant à gauche. Et plutôt que de simplement avoir d'un côté l'assistant, de l'autre ton appli, il y a une intégration forte en fait. Et l'assistant peut aller modifier
la carte. J'ai compris.
Et y rajouter les éléments.
Par exemple, si tu lui dis c'est trop loin pour moi ce point.
Hop, ton petit point sur la carte, il va se déplacer pour te proposer d'autres choses.
Il va déplacer le monument.
il prend un autre exemple où il met un fichier PDF dans la conversation avec ses billets. Et hop, les données du PDF sont lues automatiquement par ChatGPT et ensuite sont intégrées dans un composant de l'interface avec les bonnes heures et le bon aller-retour, etc. pour te générer, voilà, comme on peut voir à droite. Lui est modifiable par l'assistant.
Ouais,
c'est un peu flippant, ouais. Mais...
et là, ça, c'est ouvert ou pas ?
C'est stylé. En fait, concrètement, ce qu'ils utilisent derrière, c'est leur système de fonctions et de JSON validé. Donc concrètement, faites pas de conneries.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que les développeurs vont pouvoir s'en emparer et
bien sûr. Okay. En fait, ils n'utilisent que des choses qui sont déjà dispo. C'est juste qu'ils te montrent un peu qu'est-ce que tu peux faire avec de la validation de données de type JSON, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, ça permet d'être plus sûr qu'un assistant va générer des données interprétables par un programme automatique.
Ouais.
Donc, c'est assez puissant.
Ah, visiblement, bah, cool. Y a des choses qui se préparent du côté d'Amazon, mais on peut encore les dire. Hein. On est sur à gauche.
Tout ce qui est validation d'output, c'est un truc sur lequel tout le monde bosse et qui est très, très important. C'est déjà possible sur les modèles open source depuis genre un an et demi, en vrai. C'est ça qui est marrant. C'est que parfois, ils ont de l'avance.
Mais moi, j'avais une question. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plus utiliser ChatGPT, OpenAI, GPT-4, etc., que tous les modèles open source qu'on a pu voir sur plein de trucs différents. Honnêtement, j'en ai vu plein passer, j'ai un peu oublié tous les noms, mais Anthropic, Zephyr, etc. Ouais.
Je pense que tu as une place pour les deux, vraiment. À mon avis, tu vas avoir vraiment des applications différentes où l'un ou l'autre est plus pertinent. Dès que tu veux faire du fine-tuning sur tes propres données, en fait, partir d'un petit modèle ultra performant, c'est beaucoup plus réaliste et ça va te coûter genre un million de fois moins cher pour des performances relativement décuplées. Pour les modèles propriétaires privés, en vrai, pour l'instant, il y a rien qui arrive à leur niveau hein, en termes de capacité. Et quand tu vois que le prix que ça coûte en fait et les temps de latence que tu vas avoir et la non-infrastructure que tu dois déployer et la qualité du service qui est dispo à peu près tout le temps, en fait, il y a un moment, ça peut devenir quand même intéressant de devoir déployer toi-même tes propres modèles, tu vois. Ouais, donc le calcul va être un peu suivant ton usage.
C'est un peu bidouilleur, etc. Ouais. Tu peux prendre des modèles open source, voir un peu ce qui se fait et tout. Si tu veux juste la fonction et l'utiliser au quotidien.
Plus tu as besoin d'intelligence, plus tu vas te tourner vers des gros modèles propriétaires. En réalité, c'est ça.
Ah ouais?
Ouais. C'est-à-dire que il y a un certain niveau de. Enfin, tu me dis, c'est ce que t'en penses. Je suis curieux d'avoir ton avis après. Je pense qu'il y a un certain niveau de je sais pas comment dire, mais de compréhension du monde en fait, ou de logique où on n'a pas encore d'équivalent open source de GPT-4 et Anthropic, etc.
Mais est-ce grave?
En vrai, ça dépend. Ouais. Ouais, ça dépend de ton use case. Hein. Ça dépend vraiment de ce que tu veux.
Souvent,
faire.
T'as pas besoin d'un.
Ah ouais, c'est ça. C'est ça un peu ce que sous-entendait ma question. Pardon.
En vrai, t'as rarement besoin d'avoir une telle performance. En fait, je parle dans la plupart des cas. En tout cas, pour des petites applications, des entreprises, tout ça. Souvent, tu te rends compte que t'as pas besoin d'avoir une technologie comme ChatGPT ou un truc comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, bah, tu peux bidouiller ton truc. Mais en fait, c'est C'est, je pense que c'est tout le overhead. Là, tout le fait de devoir mettre à jour ton modèle ou alors l'infrastructure qui est derrière.
La
pénibilité en fait, de devoir être sûr que c'est tout le temps au top. Tu vois ouais. Et en fait, c'est toujours, ça a toujours été comme ça. En fait, c'est toujours le même débat.
Du coup,
ça a rien ne change avec l'IA. Finalement, j'ai envie de dire,
c'est le même débat. C'est toujours le même débat. Pour ceux qui aiment bien bricoler, très bien qu'ils y aillent, mais il y aura toujours beaucoup plus de taf. Et ce sera disponible aussi pour les gens qui veulent lancer leur truc rapidement et qui veulent mettre de l'IA directement dans leurs applis et que ça les dérange pas de payer un petit peu par mois. Donc voilà, c'est le débat est toujours le même.
C'est ça. Bien. Et la dernière news qui, moi, m'a fait vraiment très plaisir, c'est le nouveau Whisper. Whisper, c'est un des derniers modèles open source d'OpenAI qu'on peut appeler CloseAI maintenant parce que clairement, ça
n'a plus rien d'open. Par contre, c'est un vrai problème de branding.
Il y a eu un changement de trajectoire. On peut quand même leur donner qu'ils ont un dernier modèle très compétitif où il n'y a juste pas d'équivalent actuellement sur le marché, c'est Whisper, qu'ils ont encore amélioré pour leur version 3, donc Whisper V3. Concrètement, à peu près tous les langages ont un gain de performance. On a un petit graphe qui montre ça par langage. Tu vois le gain. Bon, il y en a où c'est énorme, où la V3 va tout changer. Ah oui. Pour le français, on ne le voit pas très bien ici, mais pour le français, le gain est assez marginal, de l'ordre d'un petit pourcent et demi ou quelque chose comme ça. Mais en fait, pour vous expliquer, Whisper, ce que ça permet de faire, c'est d'écouter de l'audio et de le transcrire en texte. Donc, c'est du speech to text. C'est ça qui vous permet de transformer une vidéo YouTube en un résumé, en 10 points, en fait. Ou alors, c'est ça qui permettrait d'avoir un Jarvis qui comprend très précisément toutes les phrases que vous lui dites, même le vocabulaire ultra spécifique, même quand vous marmonnez dans votre barbe. C'est très important et très frustrant quand un assistant ne comprend pas bien ce qu'on lui dit, en fait. Et donc, ces modèles-là, c'est hyper, hyper crucial, en fait. Et on a encore du progrès à faire. Et donc, ce modèle est vraiment bienvenu. En français, ce ne sera pas dingue. Voilà, c'est une petite augmentation, mais 1%, en fait, il ne faut pas négliger ce que c'est. C'est quand même des dizaines et des dizaines de fautes en moins sur une transcription d'une discussion comme celle qu'on a en ce moment. Donc franchement, ça fait très plaisir. Merci à eux de le garder open source, n'est-ce pas? Et s'ils pouvaient recommencer. Par exemple, en vrai, il y a plein de gens qui disent qu'ils pourraient mettre en open source GPT 3.5 Turbo. Il y a plein de gens qui disent ça et je suis assez d'accord. Parce que c'est probable, ça a leaké dans un papier de Microsoft que ça ferait probablement 20 milliards de paramètres. Ça n'a pas été confirmé, etc. Mais c'est probable que, en fait, très loin des 130 qu'on s'imaginait, ce ChatGPT 3.5 Turbo, ce sera en réalité que 20 milliards de paramètres. Donc, si avec de la quantisation, bref, un truc pour le rendre un peu plus petit, concrètement, tu pourrais le charger sur à peu près n'importe quel gros GPU à ta maison, tu vois. C'est pas sûr qu'ils vont le faire, j'y crois même pas trop, mais ce serait vraiment un
jeu. Et s'ils le publient, est-ce que tu peux pas savoir un peu leur méthode de travail, d'entraînement des... Non.
Non.
Je pense que les gens, ils veulent juste les poids.
Voilà.
Oui, évidemment, mais t'as des effets de bord, forcément. Enfin, je pense que c'est un des trucs que tu réfléchis. Non,
mais bonne question. C'est une bonne question. Peut-être qu'ils veulent garder le secret de leur entraînement, etc. Mais franchement, ça serait.
Oh, moi, ouais,
ils remonteraient dans le cœur de beaucoup de gens s'ils faisaient ça. On verra.
C'est vrai qu'ils se sont un peu fermés dans le cœur des gens.
Mais oui, là, c'est franchement.
Alors que Facebook est devenu un.
Mais oui.
Un bon élève.
Et c'est
alors
dingue.
Que à la base, c'est Facebook quand même.
Mais c'est dingue. Comment Meta, là, en quelques mois, dans la sphère tech, a pris un
du coup, des points. Conclusion, si vous êtes une boîte tech que tout le monde déteste, vous open sourcez un truc, les gens vous aiment bien.
Exactement.
Non mais Facebook.
Ça prend un peu de temps.
Exemple de Facebook.
Mais c'est vrai. Bah on rend.
Je sais pas si c'est
la conclusion.
Si c'est une bonne conclusion, si ça donne de l'espoir dans la vie, mais je sais pas.
Si ça donne de l'espoir dans la vie, mais c'est tout à fait vrai.
Oui, c'est vrai.
Et les seules petites déconvenues, les seuls trucs qui m'ont un petit peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de diarisation. Ce qui est aussi un truc très important, c'est le fait de pouvoir repérer qui parle dans une conversation à plusieurs.
Ah oui.
Par exemple, quand je passe underscore dans Whisper, il a un peu de mal à savoir que c'est Tiffany, Mathieu ou moi qui est en train de parler. Et il y a des petits overlaps, etc. Non, ça marche, mais En gros, tu dois rajouter des algos et des technos par-dessus le modèle qui ne le gère pas nativement. C'est un peu dommage. Et j'aimerais bien que voilà, j'aimerais bien qu'ils bossent un peu là-dessus, quoi, parce que c'est bon, quoi. Je pompe leur travail gratuit. ce que je vous propose, parce que j'ai fait un énorme tunnel, c'est que si j'ai pas du tout, honnêtement, j'ai pas du tout regardé le chat. Oh, coucou, petit raid de Bastille, oui, que je vois pour une fois, alors que je le rate.
Que, alors, faut que je te raconte, c'est que quand on oublie de remercier un raid de Bastille, il m'envoie un message pour rire. Hein. C'est vraiment pour rire, Bastille.
Waouh!
Mais il est là en mode, bah super le raid!
Et, bah, pour une fois,
et comme quoi il nous raid toujours. Il arrête pas de nous raid. Alors ça, c'est sympa quand même.
Il dit, il leak.
Il leak. Mais non, mais il continue, il continue de nous raid. C'est quand même sympa.
Donc si j'ai fait un tunnel, donc je n'ai pas suivi aucune de vos réactions. Donc s'il vous plaît, si vous avez des réactions à la conférence ou des trucs que vous avez vu que j'ai probablement raté, n'hésitez pas à les partager parce que bah, je les ai juste pas vus en fait. Je peux essayer de remonter, mais vraiment là j'ai enchaîné parce que sinon ça allait être très long. Diarisation avec un H. Non, pas ça.
Alors, c'est vrai que quand j'ai entendu le mot pour la première fois, je me suis dit tiens, est-ce que c'est le meilleur mot qu'ils aient choisi pour décrire la chose ?
C'est en anglais. Diarise. Je sais pas ce que ça veut exactement ce que ça veut dire en fait. Non. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs que peut-être vous avez vu ou qui voilà ou qui vous ont paru particulièrement intéressants?
Non, moi pour rebondir, ouais. Moi c'est pour rebondir sur quelque chose donc. Mais sur pour rebondir sur à quel point ça va vite. Moi vraiment quand je me refais l'échelle, la techno qui a permis les LLM c'est 2017. Les premiers LLM ça doit être quoi? 2019, 2020. GPT-3 ça doit être 2021 ou 22, ChatGPT 2022, et enfin vraiment, tu te dis, la techno c'est 2017, on est en 2023, vraiment c'est la vitesse à laquelle ça va qui me sidère.
Ouais, c'est
impressionnant. Et il y a 5 ans, justement, on aurait. C'est quelqu'un qui disait, il y a 5 ans, on aurait pu se dire que la voiture autonome serait là dans 5 ans, mais par contre, on n'aurait jamais pu dire qu'on aurait ce type d'IA avec lesquels converser. Résultat, on n'a pas la voiture autonome, on a les IA.
Et la voiture autonome, c'est. Mais il y a pas mal de gens que je trouve. Pas stupide du tout, qui disent que c'est possible qu'on ne l'ait jamais.
Ouais. On a les mêmes sources.
C'est une take intéressante quand même.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est frappant de se dire tout le monde aurait dit il y a 10 ans qu'on serait plus conduit par des robots. Et non. À la place, on parle à des gens qui n'existent pas.
Voilà. Et du coup, je trouve ça vraiment fou l'évolution de tout ce que ça a permis.
Très très stylé. Le fait que le pricing de l'input soit 3 fois moins cher et l'output 2 fois moins cher, c'est un peu signe. C'est un bon signe pour encourager aux longs pré-prompts et aux embeddings. Oui. Moi j'ai vu des gens se plaindre du fait que donc la nouvelle version de GPT-4 Turbo avait un contexte gigantesque où tu pouvais mettre un livre. Par contre, l'output, lui, était toujours limité à 4000 tokens. Mm. Donc tu peux pas faire écrire un livre GPT-4. Mais en fait. C'est pas si dramatique dans la mesure où tu peux toujours lui faire générer des choses et le mettre dans son ancien contexte et qu'il poursuive. Ce qui est un peu de la triche. C'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est le genre de truc que je vois en conversation que j'ai vu sur Twitter, par exemple, voilà, où des gens se tapaient dessus à propos de ça. Donc la personne répond, mais non, mais tu dis n'importe quoi, t'as qu'à faire plusieurs générations. Mais en fait, cette personne n'a jamais essayé de produire des contenus de longue durée.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est hyper important la taille d'un output, d'un modèle de langage. Parce que, comme on le sait, les ChatGPT, ils ont très envie de conclure tout le temps. OK ? Et donc, en fait, tu lui demandes d'écrire un article. Si tu, entre un article écrit en une fois ou en quatre fois, en termes de qualité de la narration,
bah oui, ça n'a rien à voir,
etc. Ça n'a rien à voir en fait.
Mm. Bah, c'est comme si on écrivait 4 mini articles, c'est nul. Non mais si tu dois vulgariser de façon.
Ou alors des articles où tu commences à partir sur quelque chose et après tu te mets à conclure tout de suite et après tu recommences et tu reconclus tout de suite. Clairement.
La rétention, c'est pas fou.
Non, ouais, clairement, ces gens n'ont jamais écrit de format long. mais ouais. GPT-5 et GPT-6 en 2024, je crois que de ce que j'ai compris, ils sont déjà en train de bosser sur GPT-4.5. Là, en réalité, les améliorations, c'est juste de la vitesse, mais on s'attend à un modèle bientôt qui soit GPT-4.5, où on passe un cap en termes de capacité de compréhension, de raisonnement, etc.
Moi, je me suis un peu perdu sur ce qui ferait que ça serait un 4.5 ou un 5 ou un 6. Autant entre le 1, le 2, le 3, on l'avait bien, un peu le 4. Mais là, maintenant, ça devient plus ou moins... Enfin, les numéros de version deviennent plus ou moins commerciaux ou...
Ouais, je sais pas. Non, je pense que ça décrit vraiment le,
toujours basé sur le même modèle, ouais.
Dans le sens où GPT 3.5, c'est vrai, de ce que j'ai compris en termes de taille de modèle, etc., c'est assez proche de GPT 3. Ouais. Et alors, là où sur GPT 4, ils ont complètement changé de système, en fait, où c'est un modèle, c'est un peu un Cerber, dans le sens où il c'est pas un seul modèle. Comment ça s'appelle tu sais,
en gros, multimodèles.
Ouais, c'est, ouais. Où en fait, sur le serveur, il n'y a pas qu'un modèle, il y en a 8, en fait, mais qui sont scotchés ensemble et entraînés différemment. Et je savais, enfin, je sais même pas comment ça marche. Mais...
Alors,
c'est des multimodèles, effectivement, mais.
Je me permets.
C'est des secrets de fabrication.
Une chronique sur le sujet.
Ouais.
Moi là, j'ai envie d'en savoir plus. Hein. Okay. Michael ou toi, Tiffany, vous me dites.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Si jamais ça peut se faire et c'est compréhensible, etc. Franchement.
Surtout, non seulement. Bon, eux, c'est un peu les pionniers là-dessus, mais maintenant, tu commences à avoir des modèles open source, par exemple. On dévie un peu, mais je m'autorise parce que la chronique est finie. Il y a des modèles open source, genre Mistral, qui est incroyable et qui fait seulement 7 milliards de paramètres. Il y a des gens qui tentent de reproduire du multimodèle. Avec des petits modèles comme ça open source. Par exemple, d'avoir trois Mistral scotchés ensemble que tu entraînes à faire des choses différentes. Par exemple, produire un output, critiquer l'output et régénérer quelque chose de mieux. Et c'est pas juste du prompting, tu vois. Tu fine-tunes tes trois mini-modèles à faire ça. Et apparemment, c'est le tout début, mais apparemment, c'est assez prometteur.
Ouais.
Mistral qui est français.
Mistral qui est français et qu'on n'arrive pas à...
Lisez vos DM.
Mistral, lisez vos DM. On aimerait... Mais après, ils n'ont pas fait de presse ou de... Mais on n'est pas à la presse ici. Ce n'est pas un passage.
Vous venez sans aucune annonce, on est content.
Exactement, venez sans aucune annonce.
On discutera, mais...
Non, mais c'est sûr que si... Ce que je comprendrais, c'est qu'ils aient des choses dans la cuisine.
Premier degré, je pense qu'ils ont juste pas allumé des... Voilà, c'est pas grave. Je vais les relancer. Pas de soucis.
Mais ce qui est probable aussi, c'est qu'ils ont des annonces prochaines à venir. Et que voilà, ils sont en mode, on bosse dans l'ombre et on balance des dingueries.
Ce que je comprends.
Ce que je respecte.
Ils se sont construits cet été, donc c'est quand même jeune.
Je pense qu'on va aller up quand même parce qu'on a trop envie de leur parler. Assez
maintenant qu'on l'a dit publiquement sur Twitch, je vais être up demain.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.